just one more. Send me minister with you one more time. Jesus.
Shalom. Vous êtes les bienvenus à ce moment qui vous est présenté par OCTC, l'œuvre du Christ pour toute la création, chrétien.tv et la radio connexiondivine.com. Que Dieu bénisse nos partenaires. Pour toute information, veuillez nous écrire à contact@octc.fr. Soyez bénis.
Seigneur, que toute la louange et la gloire te soient données. Que toute la magnificence te soit donnée. Toi qui vis éternellement jamais, toi qui rien du tout n'est impossible. En vain les bâtisseurs bâtissent, si toi, éternel Dieu, tu ne bâtis pas. En vain les gardiens gardent, si toi, éternel Dieu, tu ne gardes pas. J'ai tellement besoin de toi. Aie vraiment pitié de moi, je t'en supplie. Donne-moi de pouvoir porter à ton peuple ce que tu veux. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir porter à ton peuple ce que tu veux. Que toute la magnificence te soit donnée. Je te louerai. À jamais. Je te louerai à jamais. Tu es grand. Ta miséricorde dure à toujours. Que toute la louange et la magnificence te soient données. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et reçu. Amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vais prier pour vous. Je vais prier et pour vos problèmes. Je vais beaucoup prier pour les problèmes physiques qui sont dans vos mariages. Vous pourrez écrire vos situations. S'il faut que je vous conseille, je vous conseillerai. Ceci est un séminaire online, comme si j'étais devant vous. Mais avant cela, nous allons entrer dans l'enseignement qui est juste indispensable. Nous sommes en train de voir les fruits qui doivent être dans le mariage pour que le mariage soit un mariage comme tu le veux enfin. S'il y a une maison, il n'y a pas à manger, la maison peut être belle. Il peut y avoir des fauteuils de milliers d'euros. Il peut y avoir un frigo, une gazinière. Mais s'il n'y a pas à manger, c'est une maison qui sert à rien. Vous comprenez cela? Tu ne peux pas être heureux dans cette maison. Mais si tu trouves une maison qui ne coûte pas 1 million d'euros, qui coûte juste 300 000 euros, mais qu'il y a à manger, cette maison sera une maison utile. Alors je suis en train de travailler pour que votre mariage soit utile. Je peux faire des conférences de guérison et de délivrance. Beaucoup de gens s'y intéresseraient. Mais il n'y a pas que la guérison et la délivrance en Jésus-Christ. Il y a la restauration de ton foyer, la restauration de ton mariage. Si ton couple va bien, ça fait plaisir à Dieu. Et si ton couple va mal, ça veut dire qu'il y a le divorce qui guette. Et ça ne fait pas plaisir à Dieu. Dieu a créé le mariage pour que vous soyez heureux. S'il n'y a pas le bonheur dans le mariage, cela ne fait pas plaisir à Dieu et cela n'est pas tobé. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il est bon que l'homme ne soit pas seul. Il est bon que l'homme soit accompagné. Si l'homme devient une seule chair, mais qu'il n'est pas toujours bon pour lui d'être une seule chair. Si la femme devient une seule chair, et qu'il n'est pas toujours bon pour elle d'être une seule chair, c'est qu'il y a une défense quelque part, et mon père n'est pas content. Alors nous parlons des fruits qui sont dans le mariage. 1 Corinthiens 13. Alléluia. Le verset 4 dit, l'amour est patient, ou la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Nous venons de parler, nous avons parlé ce matin de quelqu'un qui se vante, Ce soir, nous allons parler du fruit de l'anti-orgueil. L'anti-orgueil, c'est l'humilité. La Bible dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Quand on parle ici de la charité, c'est comme si on personnifiait la charité. Pourquoi? Parce que l'état de ton âme dépend de la valeur de l'amour qui fait partie de ton âme. Est-ce que quelqu'un va comprendre? L'état de ton âme, ta spiritualité, ta valeur spirituelle dépend de l'importance spirituelle, de l'agapéo qui compose ta personne. Je le répète encore une fois, je dis que ton importance, ta valeur spirituelle dépend à un lien direct avec ta valeur d'agapéo, la valeur, le niveau d'agapéo qui se manifeste en toi. Ta valeur spirituelle devant Dieu ne dépend pas des miracles que tu accomplis, ne dépend pas des délivrances que tu peux accomplir, ne dépend pas de tous les efforts que tu peux accomplir dans la communauté chrétienne. Ta valeur spirituelle, la Bible dit que vous pouvez parler la langue des anges, donner des prophéties. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne servez à rien, vous êtes rien. Toutes ces choses ne servent à rien. Ce qui veut dire que tu peux avoir le pouvoir de déplacer les montagnes, donner les prophéties comme tu veux, être un bon prédicateur, être un grand prophète, l'Esprit de Dieu est sur toi, tu fais des miracles comme Jésus. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas de valeur spirituelle. C'est pour cela que je vous dis que ta valeur spirituelle auprès de Dieu dépend de ton niveau, de ta capacité, de la valeur, de l'amour, du potentiel, de l'amour agapéo que tu as en toi, de ton niveau d'agapéo. Si l'agapéo est pleine, se manifeste en toi, devant Dieu, tu as plus de valeur que quelqu'un qui déplace les montagnes, mais qui n'a pas l'agapéo. Ainsi, l'agapéo est directement lié à notre âme. Une âme qui fonctionne, qui est construite dans l'agapéo, est une âme qui a la valeur devant lui. C'est une âme qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est une âme qui peut accomplir plein de bonnes choses. Ainsi, on personnifie l'agapéo comme si c'était une personne parce que nous sommes en réalité concernés. L'agapéo devient nous-mêmes et nous fonctionnons selon ce que l'agapéo nous dirige. Nous fonctionnons selon le fruit de l'Esprit Saint qui est l'agapéo. Alléluia. Ainsi, la Bible le dit clairement. Alléluia. La Bible le dit clairement que l'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Ce qui veut dire que si tu fonctionnes en étant inspiré, en étant conduit par l'amour, tu ne peux pas t'enfler d'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? C'est quelqu'un qui est tout simplement une personne qui se positionne, d'accord? Qui se conduit d'une manière à se dire « il n'y a que moi ». L'orgueilleux n'écoute pas l'autre. L'orgueilleux ne pense qu'à lui. C'est un égocentrique. C'est quelqu'un qui se vante. C'est quelqu'un qui se gonfle. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a que lui. C'est quelqu'un qui s'enfle, qui dit « je suis au-dessus de tout le monde ». Je peux te faire de peine, mais toi, tu n'as pas le droit de me peiner. Je peux ne pas t'écouter, mais toi, tu n'as pas le droit de ne pas m'écouter. C'est quelqu'un qui se centre que sur lui-même, sur les forces de la chair, qui se dit « il n'y a que moi qui compte, les autres ne comptent pas ». Déjà, ça crée une division, parce que quand Dieu dit « l'autre, moi-même », ça veut dire que ton bonheur se trouve dans l'autre, et le bonheur de l'autre se trouve aussi dans l'autre. Si quelqu'un veut être heureux, il doit rendre son mari heureux, sa femme heureuse. Si une femme veut être heureuse, elle doit rendre son mari comment? Heureux. Mais s'il y a l'orgueil, cela ne pourra point se faire. Parce que l'orgueilleux, c'est l'égocentrique. C'est celui qui pense à lui, c'est celui qui se croit au-dessus des autres. Alors que le humble pense à l'autre. Ainsi, dans le mariage, il doit avoir l'humilité et non l'orgueil. Parce que l'orgueil n'attend pas l'autre. L'orgueil ne prend pas en considération l'autre. Puisqu'il se sent au-dessus de tout. Puisqu'il pense qu'il n'y a que lui qui peut réussir. Puisqu'il pense qu'il n'y a que lui qui compte. Alors l'autre lui parle, ça ne compte pas. Le bonheur de l'autre ne compte pas. La paix de l'autre ne compte pas. La joie de l'autre ne compte pas. Il dit, aujourd'hui nous allons manger du riz. Demain, nous allons manger du riz. Après demain, nous allons manger du riz. Pourquoi? Parce que lui, il aime le riz. Il ne pense pas à l'autre. Nous allons marcher dans le jardin. Nous allons nous balader alors que l'autre, il veut rester un peu à la maison pour regarder un film, tout simplement. Mais il ne pense pas à l'autre. Alors, l'orgueilleux ne peut pas rendre heureux l'autre. C'est pour cela que si tu es orgueilleux, tu ne peux pas fonctionner dans le mariage. Tu ne peux pas reconnaître tes torts. Tu ne peux pas s'excuser. Il y a une culture qui dit que l'homme ne s'excuse pas. Ce n'est pas une culture qui vient de Dieu. Ce n'est pas une mentalité qui vient de Dieu. La Bible dit que pardonnez-vous les uns les autres et demandez pardon. Alors, comment est-ce que toi, tu peux dire que ta culture est tellement puissante, tellement authentique, tellement antique, que toi, tu ne respecteras pas la parole de Dieu qui dit que si quelqu'un a quelque chose contre toi, va régler l'affaire. Toi, tu dis non, dans notre patrie, dans ma culture, l'homme ne demande pas pardon, c'est de s'abaisser. Cela n'est pas vrai. Tu dois être renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois être métamorphosé par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Le renouvellement de quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Une femme orgueilleuse ne peut pas construire son foyer. Une femme orgueilleuse ne peut pas comprendre que Dieu dit, soumettez-vous à vos maris. C'est trop compliqué, ça ne passe pas dans ton cœur. Mais chaque fois que tu ne seras pas soumise à ton mari, est-ce que tu sais que tu auras des problèmes? Tu ne te sentiras pas accompli. Alléluia, je suis en train de vous donner cet enseignement, mais vous pouvez demander à mon épouse si elle se sent esclave, si elle se sent et moins que rien. Non, elle est tout le temps valorisée, elle est valorisée. Alors, se soumettre à son mari ne veut pas dire être esclave. Et mari aussi, écoutez, que la femme soit soumise ne veut pas dire que la femme est ton boy, que la femme est au même niveau que les enfants, que tu dois dénigrer ton épouse devant les enfants, devant les invités. Lorsque tu dénigres ton épouse devant les gens, cela veut dire que toi-même, tu as un problème. Tu te dénigres toi-même. Comment quelqu'un pourra te considérer s'il ne considère pas ton épouse? Voici le fonctionnement de l'homme. L'homme qui ne considère pas une femme croit que la femme est quoi? Esclave, se pense au-dessus de la femme. Croit qu'il peut parler à sa femme, à cette femme, n'importe comment. Quelqu'un qui parle à ton épouse, n'importe comment, cette personne ne te respecte pas. Moi, je ne permettrai jamais que quelqu'un parle à mon épouse, n'importe comment. Ça ne passera pas. Il ne faut même pas rêver. Parce que je la respecte et tout le monde doit la respecter. Point final. Quelqu'un qui ne respecte pas mon épouse, cette personne me manque de respect. Ainsi, je respecte mon épouse me respecte, je valorise mon épouse me valorise. La Bible dit « Honorez vos femmes, j'honore ma femme et je veux que tout le monde puisse l'honorer » et c'est comme ça. Alors, si tu es enflé d'orgueil, tu ne peux pas être orgueilleux et en même temps honorer ta femme. Cela ne fonctionne pas dans le couple. Même si tu es orgueilleux dehors, devant ta femme, au minimum, je t'en supplie, sois humble. Devant ton mari, sois humble. Il y a des défaillances dans le couple des pasteurs à cause de ça. La femme est pasteur. Elle croit qu'à la maison aussi, elle va être la dirigeante. Cela ne fonctionne pas comme ça. Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes une seule chair. Et le principe de Dieu fonctionne toujours. Même si tu es femme, pasteur, si il est habitué que tu fasses à manger à ton mari, fais toujours à manger à ton mari. Même si tu es pasteur et qu'il est de votre coutume que tu fasses à manger et à ton épouse, fais à manger à ton épouse. Cela ne gâte rien. Est-ce que quelqu'un va me comprendre? Est-ce que quelqu'un va me comprendre? Vous aurez des questions à poser tout à l'heure. Celui qui est orgueilleux ne peut pas reconnaître, aura du mal à reconnaître son tort. Celui qui est orgueilleux a du mal à être en accord avec quelqu'un d'autre, a du mal à négocier des situations, à prendre des décisions en commun accord avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cette personne pense tout simplement qu'il n'y a qu'elle qui a raison. Alors le fruit de l'anti-orgueil est tout simplement indispensable dans ton foyer. Si tu es orgueilleux, cela ne fonctionnera pas. J'ai reçu un couple chez moi un jour. En entretien, j'ai parlé à la femme, j'ai parlé à l'homme. L'homme est tellement orgueilleux qu'il ne peut pas concevoir qu'on lui dise qu'il n'a pas raison. Déjà à la maison, il dit à la femme que c'est la femme qui a tort. Devant moi, je les reçois ensemble, je les reçois individuellement pour conseiller chaque personne afin que personne ne se sente amoindri devant son conjoint. Je prends l'homme, je dis que tu tapes ta femme. Oui, je l'ai tapé. Je dis, c'est normal que si tu tapes ta femme, elle ne veuille pas t'embrasser tout de suite. Il n'y a pas de forcing. Psychologiquement, elle est blessée. Ne pense pas que tu vas lui donner des gifles. Et puis, du chéri, embrasse-moi. Ça ne fonctionne pas. C'est un être humain. C'est une âme. C'est une émotion. Alors, de la même manière dont tu as tout fait pour qu'elle ait confiance en toi, pour qu'elle accepte de t'épouser, toi qui bats ta femme, mais tu dois faire de cette même manière. Tu dois repartir à la source. Tout faire pour qu'elle puisse accepter de t'embrasser demain. Mais elle ne veut pas comprendre. Il a dit oui. Il me cite même des versets bibliques. La Bible dit ne vous refusez pas. Mais ce n'est pas du viol. Alors, si la femme ne veut pas embrasser, le monsieur il n'est pas d'accord. Alors, je lui dis, tu sais, il faut que tu changes de comportement. Tu ne peux pas battre ta femme. Tu ne peux pas injurer ta femme et croire qu'elle ait un comportement de celle qui est amoureuse devant toi. Non, ce n'est pas possible. Mais quand bien même je lui disais ça, pas devant son épouse, le monsieur me dit, oui, moi, je pense que c'est spirituel. C'est spirituel. Je pense qu'elle a besoin de délivrance. Mais je dis, mais ce n'est pas une question de délivrance. Donc, ils sont venus chez moi pour que Daviston puisse opérer la délivrance à la femme, pour que la femme puisse accepter tout ce qu'il dit, même s'il bat la femme. Je dis, non, tu dois changer. Tu n'as pas le droit de taper ta femme. Premièrement, tu l'as blessée plusieurs fois et puis tu la forces. Cela ne fonctionne pas comme ça. Quand même, il me cite, mais le monsieur ne voulait pas comprendre pourquoi il y a l'orgueil. Maintenant, la femme a dit quoi? Moi, je vais partir. Je vais partir parce que tu me fais peur. Tu ne veux pas accepter. Vous comprenez? Il ne veut pas accepter. Alors que ce que je lui disais que tu dois reconquérir le cœur de ta femme comme à l'origine. Il ne veut pas comprendre ça. Mais quand je les ai repris à deux, j'ai dit, moi je pense que ton mari, j'ai dit à la femme, est-ce que tu aimes ton mari? Il dit, oui, je l'aime. Je dis, est-ce que tu veux divorcer? Elle me dit, oui, je veux divorcer. Mais je dis, mais est-ce que s'il change, s'il redevient comme au début, est-ce que tu veux toujours divorcer? Elle me dit non. Je dis, monsieur, le seul moyen pour sauver ton mariage, c'est de redevenir comme à l'origine. Comme si tu devrais gagner de nouveau son cœur. Il y a beaucoup de femmes qui sont amoureuses, qui sont tombées amoureuses de leur mari parce que l'homme a parlé. Redeviens comme à l'origine. Change de caractère et tu sauveras ton mariage. Mais le monsieur ne veut pas comprendre. Il me fait comprendre que c'est la délivrance. Alors moi, je dis, mais je ne peux pas vous aider. Vous comprenez? L'orgueil ne peut pas résoudre ton foyer. Arrivé à un moment donné, si tu as vraiment envie de sauver ton couple, laisse de côté l'orgueil. Je vous ai parlé d'un grand homme de Dieu la dernière fois, qui n'a pas soutenu, sa femme du moins ne s'est pas sentie soutenue quand elle était malade. Et cet homme de Dieu, sa femme a demandé le divorce. Oh, les hommes de Dieu sur la terre étaient contents. Ils étaient contents, dit ouais, voilà, on avait raison, Dieu ne l'aime pas, Dieu l'a puni, Dieu n'est pas avec lui, etc. Mais cet homme de Dieu s'est humilié. Il a reconnu ses torts. Il a parlé à son épouse et son épouse est revenue et je pense que le divorce va être annulé, j'espère. Et voilà. Et voilà. Il est devenu humble. Sa femme est partie, le niveau de bénédiction a baissé. Vous comprenez? Alors, est-ce que c'est important pour Dieu que tu puisses avoir un foyer solide? Si c'est important pour les hommes de Dieu qui sont dans le ministère, c'est important pour toi, enfant de Dieu, même si tu n'es pas dans le ministère, de pouvoir faire quoi? De pouvoir conserver ton mariage. Pour pouvoir conserver ton mariage, tu dois mettre de côté l'orgueil et tu n'as pas une autre option que cela. L'orgueil dans la femme ne résout rien. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont orgueilleuses. Moi, c'est ceci. Moi, c'est cela. Moi, mon père me faisait manger de la viande tous les jours. Mon père avait un cuisinier qui nous faisait à manger. Alors, je suis désolé, je ne peux pas être dans cette maison qui n'a pas de cuisinier, qui n'a pas de chef cuisinier qui me fasse à manger. Alors, déjà, je me débrouille. Tu me laisses tranquille. J'étais mieux dans la maison de mon père. Nine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le couple se bâtit dans l'amour. Et c'est dans l'amour que nous trouvons des solutions. Alors, en parlant d'orgueil, le verset 5 dit, « Elle ne fait rien de comment ?» De malhonnête. Vous savez, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Alléluia. Malhonnête, c'est agir d'une manière malsaine. Agit d'une manière pas honnête, agit d'une manière pas vraie. Monsieur, tu gagnes 8000 euros par mois et tu dis à ton épouse, je gagne au fait 4000 par mois. Si tu n'as pas confiance, pourquoi est-ce que tu t'es mis avec? Et si toi, si femme, tu ne peux pas rendre ton mari honnête, parce que dès que le salaire tombe, il faut que tu t'achètes des chaussures. Après avoir acheté des chaussures, il faut que tu achètes quoi? La robe. Après avoir acheté la robe, il faut que tu aies montré à ta copine que tu as une nouvelle bague. Quand tu vas chez ta copine, tu vois que ta copine a aussi une bague extraordinaire. Mis à part ça, son conjoint lui a acheté, je suis en train de prophétiser, je pense, son conjoint, c'est pour ça que je n'ai pas dit son mari, hein, parce que il y a quelqu'un qui est en train de vivre cela maintenant. Son copain, ils sont dans le péché. Son copain lui a acheté parfum, lui a acheté un collier. Tu reviens chez ton mari, tu dis, toi-même, tu sers à quoi? Allez, donne-moi l'argent, je vais aller acheter aussi la même chose. Oula, tu as vu la nouvelle voiture là-bas? Moi aussi, je veux la même chose. La malhonnêteté. La malhonnêteté. La malhonnêteté ne peut pas conjuguer avec l'unité. Vous devez être net. Je vous donne mon exemple parce que je ne peux pas vous enseigner ce que je ne vis pas moi-même. Et si je vis moi-même et que cela fonctionne, c'est que ça devrait fonctionner avec vous aussi. Je ne connais pas votre mari, je ne connais pas votre femme, mais l'honnêteté doit se jouer dans les deux cas. Les dépenses doivent se décider ensemble. Les budgets doivent se décider ensemble. Si tu ne travailles pas en tant que femme et que c'est l'homme qui travaille et qui amène 8000 euros dans la maison et que financièrement le budget alimentaire nutritionnel de la maison c'est 600 euros et que mis à part ça vous devez payer l'immobilier, le mobilier et que tout revient à 3000 euros, maintenant il reste combien? Il reste 4000 euros. Maintenant comme tu ne travailles pas mais que tu sers le monsieur, peut-être les enfants c'est à la maison, le monsieur te donne par exemple 800 euros d'argent de poche par mois. Contente-toi de tes 800 euros, économise si tu as envie, économise et fais un jour ton affaire si tu as envie, dépense tout si tu as envie, mais ne va plus déranger. Est-ce que quelqu'un va me comprendre? Ne va plus déranger. Et puis l'homme ne peut pas laisser la femme sans argent de poche. Une femme, ce n'est pas un poulet. La femme, ce n'est pas un poulet. La femme est un être humain. La Bible dit cultiver le jardin. La femme doit se sentir utile à un moment donné dans ta vie. La femme doit avoir son salaire. Il faut qu'une femme ait son argent de poche. Je vous promets, je vous parlerai des fruits physiques. Mais quand je vous parlerai des fruits physiques, vous comprendrez que quand tu n'as pas la bénédiction de Dieu, tu souffres la pauvreté, manque d'argent dans ton foyer. Ça dure un mois, deux mois, trois mois. Nous allons vivre d'amour et de l'eau fraîche. Là, cette phrase n'est plus très terrible. Cette phrase ne fonctionne plus très bien. Cette phrase, qui est d'accord avec moi? Qui l'a déjà vécu? Qui est d'accord avec moi? Cette phrase a du mal à s'accomplir. Ça s'accomplit juste une, deux ou trois fois. Des fois, ça s'accomplit quand vous n'êtes pas encore marié. Mais en tant que marié, ça a du mal à fonctionner, ça. Ça a du mal à fonctionner. Alors, une femme a besoin d'une autonomie quelque part. Elle a besoin de se sentir valorisée. Mais si la femme tout le temps va demander à l'homme, s'il te plaît, tu peux me donner 50 francs, s'il te plaît, tu peux me donner 100 francs, s'il te plaît, tu peux me donner 100 euros, cela ne va pas très bien. Vous comprenez? Il faut que la femme se sente valorisée. Et pour qu'elle puisse se sentir valorisée, il faut qu'elle se sente importante, qu'elle soit capable de faire des choses, qu'elle soit capable de sortir pour dire, j'ai acheté du jus. J'ai acheté du lait, j'ai acheté un pack de lait, ça me fait plaisir. Dans le jardin d'Éden, la femme avait sa nourriture. La femme n'a pas demandé l'autorisation à l'homme avant de manger le fruit. Parce que ce qui veut dire qu'elle avait le droit d'accéder au fruit comme elle voulait. Alors que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le salaire, c'est quoi? C'est avec ça que tu manges. C'est le fruit d'un travail. Alors si j'ai une femme à la maison qui prend soin de moi, qui me fait manger lorsque je rentre, lorsque j'ai mon salaire, je dois partager. Même si c'est pas 50-50. Lorsqu'on enlève toutes les dépenses de la maison, je dois lui donner au moins un peu. Il y a des hommes qui donnent plus d'argent de poche à leur fils aîné qu'à leur femme. Cela n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez cela? Cela n'est pas normal. En ce qui concerne mon foyer, mon épouse connaît mon compte. Elle y va comme elle veut, elle se balade dedans aussi comme elle veut. Et d'ailleurs, mon compte personnel, elle gère mieux que moi. Parce que je n'aime pas les limites. Vous comprenez cela? Quand on va faire les courses, ce que moi j'ai acheté à 150 euros, elle peut l'avoir à 50 euros. Bon, je donne approximative. C'est exagéré. Vous comprenez cela? Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lorsque Dieu m'a appelé, j'ai laissé mon boulot. C'est elle qui travaillait. Si mon épouse devait travailler, elle aurait pu travailler. Elle trouve toujours de bons boulots. Mais elle aussi, je la comprenais pas. Parce qu'elle trouvait de très bons boulots. Et elle quittait de très bons boulots. Une fois, elle a quitté un boulot pour cette raison. Tous ceux qui sont là-bas, ce sont les homosexuels. Elle dit, c'est insupportable. Je peux pas les voir faire ça. Je dis, mais non, toi, tu ne vas pas pour ça. Mais elle est partie quand même. Vous comprenez? Alors, si elle devait travailler, arriver à un moment donné, elle travaille, moi je ne travaillais pas. Mais cet argent, c'est elle qui finançait le foyer, c'est elle qui finançait toutes choses. Et moi j'étais béni. Aussi arrivé à un moment donné, c'est moi qui travaillais, elle ne travaillait pas. Mais si elle travaille et finance tout, elle laisse l'argent à ma disposition. Pourquoi est-ce que lorsque moi je travaille, elle ne peut pas en bénéficier? Si elle n'en bénéficie pas, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. Est-ce que quelqu'un va me comprendre? Le mariage, c'est le partage. Le mariage, c'est la victoire. Je vous dis ce qui fonctionne. Je remercie Dieu pour cette mentalité. Elle est plutôt économe. Gloire à Dieu. Mais il y a des femmes qui ne sont pas du tout économes. Là, ça crée un souci. Dans ce cas, parlez. Dans ce cas, négocier. Dans ce cas, discuter. Dans ce cas, que tout le monde fasse des efforts. Si tu es une femme dépensière, tu achètes du n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de prier pour toi. Que quelqu'un dise Alléluia. Tu as plein de chaussures. La dernière fois, j'ai conseillé une femme. Une femme qui me dit, pasteur, je vais pas vous dire c'est l'épouse de qui. Pasteur, je sais pas, mais quand je vais au marché, il faut que j'achète toujours quelque chose. Quand je vais au supermarché, il faut que j'achète toujours quelque chose. Oh là là, bientôt ce sont les soldes. Il faut que je fasse les soldes. Mais ton armoire est blindée. baby, du sommet de la tête jusqu'au plan des pieds. Tu as des chaussures, des chaussures, des chaussures. Tu n'as besoin de rien. Alors je lui ai dit, est-ce que toi-même tu as envie que je prie pour toi et que cette envie de dépense puisse te quitter? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Ah, je sais pas si j'ai vraiment envie. Hein? Alors moi je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, voilà ce qu'on va faire. Et tu vas sortir tes chaussures parce qu'elle a tellement de chaussures qu'elle n'a jamais portées. Hein. Mais dit, des fois mon mari me dit, mais comme tu portes pas, donne. Des fois je donne pour pouvoir libérer l'espace, mais ça me fait mal au cœur quand même. Je libère l'espace pour pouvoir réacheter. Je dis, j'ai une idée pour toi. Tu vas mettre des choses, tes habits là, tu vas les mettre sur le lit. Tes chaussures aussi, tu vas les sortir. Et puis tu vas les réacheter. Tu vas racheter ce que tu as déjà acheté. Et si tu achètes, tu donnes l'argent à ton mari, tu donnes l'argent à quelqu'un, ou tu donnes l'argent aux pauvres. Vous faites des fois des dépenses inutiles qui pourront donner à manger à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Quelqu'un arrive à me comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive tout simplement à me comprendre? La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais aller faire les soldes. Yo. J'ai à peu près 1 500 000. Bon, allez, 2000 euros pour aller faire les soldes. Alors, c'était 1 500 000 francs CFA, hein, mais bon, je trahis personne. À peu près 2000 euros pour aller faire les soldes. J'ai dit, oupla, attends d'abord. Allez, avant d'aller faire les soldes, moi j'ai besoin d'à peu près 300 euros fait pour la rentrée en septembre, pour payer la scolarité à l'internat d'un enfant camerounais. Est-ce que tu veux m'aider? Il a dit oui. J'ai dit, alléluia, tu es béni. Vous comprenez? Alors, des fois, tu peux économiser. Tu peux économiser dans l'année. Alléluia, des dépenses ne permettent. Des fois, vous savez, créer des problèmes dans le couple. Des fois, c'est ça qui fait que l'homme peut être malhonnête. C'est-à-dire que tu dis, tu gagnes combien? Si je te dis combien je gagne maintenant, déjà pendant les fiançailles, tu m'as ruiné. C'est-à-dire que je t'ai dit que je gagne 1 500 euros. Mais les dépenses par mois, pour toi, ça, c'était 1 000 euros. Sinon, tu n'allais pas m'épouser. Mais toi-même, imagine, je paie un loyer de 1 000 euros déjà. Je dois manger. Mais je te dis, je gagne 1 500 euros. Tu me manges tout. Si je te dis maintenant que je gagne 5 000 euros, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en aurai pas même pas pour ma mère. Ma mère qui a payé tout pour moi, qui est pauvre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Vos attitudes. Dans ce cas, l'honnêteté consiste à parler franchement. À parler franchement. Un jour, on a demandé à quelqu'un, est-ce que le roi David se touche chez toi? Elle a dit non. Pourquoi? S'il avait dit oui, on allait tuer David. Je ne sais pas où se trouve David. Je ne sais pas où se trouve David. Alors qu'il savait où était David. Le roi Saül a tué un prêtre. Vous comprenez? Alors je vous en supplie. Ayez des comportements qui poussent ton autre, moi-même, à être honnête. Ayez l'honnêteté. Et si ton époux est honnête envers toi, dis toute la vérité. Parce que si dans ton mariage, tu caches des choses, il y a quelque chose alors qui ne va pas. Qui arrive à me comprendre? J'espère que j'ai été pour vous une source de bénédiction. Et je sais que c'est un cas compliqué, un sujet un peu difficile. Je sais que beaucoup auront du mal à comprendre et que beaucoup me comprennent. Mais c'est compliqué, d'accord, à faire. Parce que si nous lisons le reste, il dira, l'amour n'est pas malhonnête. Il dit, l'amour ne cherche point son intérêt. Vous voyez, tout revient. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Vous comprenez? Alors, je vous en supplie. Je vous en supplie. L'honnêteté, la clarté. Hein? Ce n'est pas ta femme qui doit aller commencer par fouiller tes affaires pour voir ton fiche de paye. Et ta fiche de paye ne vient jamais à la maison. D'accord? Je vous parle de moi pour que vous puissiez comprendre. et la semaine prochaine, débrouillez-vous pour venir de zéro au mariage réussi. Parce que après cette séance de d'enseignement sur le mariage que je fais la semaine prochaine, avec l'onction qui l'accompagne, je ne sais pas si je ferai encore des enseignements sur le mariage aussitôt. Alors, profite-en et sois là. Si tu veux que pour toujours ton mariage soit béni, tu n'as pas une autre option que de venir la semaine prochaine du 19 au 22 pour recevoir ta bénédiction. Qui va venir? Qui va venir? Qui va venir? Le Seigneur va te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'attends les questions. Demain, c'est jeudi. Je vais finir avec ça. Et puis, il y a tellement de choses à faire. Je dois écrire un livre sur le mariage. Et puis, vendredi soir, je prierai vraiment pour vous sur les fruits physiques. Les fruits physiques, matériels, c'est ce qu'on voit. C'est ton bonheur. C'est ton habillage. C'est ton amour. Tu es amoureuse. C'est surtout l'enfant et c'est surtout la finance. Si tu obéis au principe de Dieu, tu auras et la finance et tu auras et l'argent aussi. Vous comprenez? Et tu auras le bébé. Un jour, un couple est parti voir un pasteur pour dire donne-moi de l'enfant. Et le pasteur leur a dit, vous disputez. Et Dieu ne permettra pas qu'un enfant vienne dans une atmosphère de dispute. Vous comprenez? Alors, quand les fruits émotionnels sont clairs, alors la bénédiction vient. Parce que Dieu a mis les fruits. Dieu a mis la terre, Dieu a mis, ils sont unis et puis Dieu les a bénis. Il y a des choses, si Dieu ne voit pas les conditions de mariage, les fruits émotionnels et les fruits spirituels de mariage dans ton couple, ça a du mal à provoquer la bénédiction financière, la bénédiction physique. Que Dieu vous bénisse en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dise que Jésus-Christ est comment? Est tout simplement Seigneur. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je veux des questions vous répondre avant de prier pour vous. Un homme qui a fait 25 ans de mariage avec une femme demande le divorce jusqu'à 2 fois reprise et dit qu'il ne veut plus la femme. Comment elle doit faire? Alors, un homme qui a fait 25 ans de mariage avec une femme qui demande, qui le divorce jusqu'à 2 fois. Alors, qui divorce la même femme 2 fois, c'est ça? Et qui ne veut plus la femme, comment doit-elle faire, pasteur? Est-ce que, s'il te plaît, tu pourras poser la question clairement? Et tout ce que vous devez savoir, même si c'est 100 fois de plus, Dieu aime toujours quand le mariage est restauré. La Bible dit, ne vous séparez point, ne divorcez point. Mais si vous divorcez, ne vous remariez pas. Ou alors, réconciliez-vous. Alors, c'est une bonne chose de se réconcilier dans le mariage. Dieu est le divorce. Mais s'il lui divorce 2 fois, reprise 2 fois, ce qui veut dire que l'amour y est. Je dis toujours quelque chose. Si vous vous êtes aimé un jour et que cet amour vous a poussé à vous marier, cela veut dire que votre mariage peut durer toute votre vie. Vous comprenez? Votre mariage peut alors durer toute votre vie. Toute votre vie, votre mariage peut durer. I believe in God, Marca Santolo Boshekia. Jesus. I believe that He can save me today. I believe in God. I believe that He can save me today. Il y a quelqu'un qui m'a dit en Guadeloupe que moi, je suis en train de prier, je voulais divorcer, mais vu les enseignements, je suis en train de prier pour que mon mari revienne. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il va revenir. Nous l'arrachons de la main des méchants. Nous le prendrons de la main des terribles qui reviennent au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi la vie à deux est aussi dure puisque c'est une bénédiction? Deux personnes. Une personne chassera 1 millier. Deux chasseront 10 milliers. Mais deux ne pourront pas marcher ensemble s'ils ne se mettent en accord. Ça veut dire que quand même deux est toujours mieux. Mais pour que les deux puissent fonctionner ensemble, il faut l'accord. L'accord sur trois dimensions. L'accord dans la mentalité, l'accord dans l'émotion et l'accord dans le physique. C'est pour cela que les fiançailles existent, pour s'éduquer, pour apprendre à se connaître et surtout savoir comment vous allez fonctionner ensemble. La vie à deux est dure parce que chacun est un arbre planté ailleurs. Vous vous rencontrez, vous devenez un seul arbre, mais vous devez choisir où vous devez être. Alors toi, tu es habitué au climat tropical, l'autre est habitué au climat polaire. Mais ensemble, vous pouvez y arriver. Il y a des efforts qu'il faut faire. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Mais s'il a l'orgueil et personne ne veut rien lâcher, ça devient compliqué. C'est pour ça que le mariage ne se fait pas après les signatures. Le mariage se calcule, se conjugue, se construit avant la signature. Le mariage, c'est le résultat du couple. Donc, c'est pour cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est dur la vie à deux. Chacun a ses habitudes, chacun sa mentalité, chacun son éducation, mais ça devient une mentalité, une éducation, une habitude. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il ne veut plus la femme pasteur et veut recommencer avec une autre femme pasteur. C'est compliqué. Ce sont des réponses qui sont compliquées à donner comme ça. Parce qu'il faut connaître la situation. Mais quelque part dans la Bible dit, s'il y a un qui est non-croyant et qui décide à partir, qui le non-croyant décide de partir, qu'il parte, le frère ou la sœur, dans ce cas-là. La Bible dit bien, dans ce cas-là, est libre. Parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la liberté. Donc ça dépend vraiment de la situation. Si le non-croyant veut partir, mais qu'il parte. Le frère ou la sœur est libre dans ce cas-là. Et si Dieu te proclame libre, ça veut dire que tu peux te marier. Remarier. Mon mari est toujours dans les bars avec des amis et ça craint. Tout le temps, c'est nous et moi, ça me pousse à le quitter. C'est compliqué, c'est vrai. C'est très compliqué. Il faut prier pour lui parce que ce n'est pas une raison au divorce. Ça veut dire pour aucun motif, sauf pour cause d'impudicité. Comment expliquer, pasteur, qu'il y a beaucoup de divorces chez les chrétiens et même chez les serviteurs de Dieu? Oui, aux États-Unis, le taux de divorce dans l'Église est au même niveau que le taux de divorce dans le monde. Ce qui veut dire que même dans l'Église, dans le monde, c'est pareil, il n'y a même pas de différence. Donc, c'est comme ça. Au Canada, c'est élevé. En France, c'est élevé aussi. Ça commence par monter beaucoup, beaucoup en Afrique aussi. Alors qu'avant, les gens avaient la crainte de Dieu. Ils arrivaient à régler leur situation. Ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, ben voilà. Avant, une femme, si elle mange du riz, les pâtes tous les jours, tant qu'elle mange le manioc, tout ça, ça lui va, elle est heureuse. Mais aujourd'hui, la femme, ce n'est plus le riz qui lui va. Il lui faut un jet privé ou il lui faut... Il lui faut une grande maison pour être heureuse. Le jour où elle trouve la grande maison, tu lui construis la grande maison, il dira, je suis trop heureuse, tu es vraiment un amour, tu es vraiment mon chéri. Alors qu'avant, la femme dit, tant que tu es à côté de moi, je suis heureux. Mais aujourd'hui, non. Il faut le matériel pour être heureux. Donc, vous voyez, les mentalités changent. Les choses deviennent un peu difficiles. C'est pour cela qu'il faut avoir plutôt la mentalité du ciel. Comment savoir que l'amour qu'on a pour quelqu'un vient bien de Dieu? L'amour qu'on a pour quelqu'un, ça dépend, c'est quel amour. Tu parles d'amour qu'on peut avoir entre un homme et une femme ou un amour, l'agapéo. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'agapéo, tu sais que tu aimes quelqu'un lorsque tu arrives à développer les caractéristiques d'agapéo qui sont quoi? Qui sont dans 1 Corinthiens 13, qui dit l'amour est patient. Est-ce que tu arrives à être patient envers la personne? L'amour est plein de bonté. Est-ce que tu arrives à être plein de bonté? L'amour n'est pas envieux. Est-ce que c'est le cas? L'amour ne se vante point. Est-ce que c'est le cas? Ne sent pas d'orgueil. Est-ce que c'est le cas envers cet individu? L'amour ne fait rien de malhonnête. Est-ce que c'est le cas? L'amour n'a point son propre intérêt. Ne s'irrite point, ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle pardonne tout. Elle excuse tout. Est-ce que tu arrives à pardonner tout de la personne? C'est comme ça que tu sauras si tu aimes vraiment la personne ou pas. Alléluia. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Elle ne périt jamais. Voilà. Si tu as ça envers quelqu'un, donc tu aimes la personne. Comment expliquer qu'un homme chrétien puisse vivre dans le concubinage? Je ne souhaite pas le mariage, ce n'est pas normal. On répondra à tout ça demain, peut-être matin ou le soir. Je vous aime de tout mon cœur et n'oubliez pas que Jésus-Christ est tout simplement Seigneur. Marie 123, je répondrai à cette question demain. Je parlerai de concubinage et puis je vous invite vraiment à venir à Lyon. Nous avons changé d'adresse, nous sommes en train de rebâtir l'église. Donc, venez à Lyon et bientôt c'est aussi... Et demain et bientôt c'est aussi Paris où je vais venir m'installer un peu pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc là je suis à Lyon, je suis en train de construire l'église. Donc venez, c'est important pour ces enseignements qui sont tout simplement indispensables. Quand j'ai redémarré, quand j'ai commencé l'église à Paris, j'ai commencé par l'institution de Dieu sur le mariage. Parce que si le mariage va bien, le foyer va bien, la famille va bien. Alors, si deux mariages dans l'église va bien, trois, quatre, cinq mariages dans l'église vont bien, je veux dire que l'église va bien. L'église est dans le plan de Dieu. Maintenant, si les églises vont bien, si deux églises vont bien, ça veut dire que les églises vont bien, n'est-ce pas? Maintenant, si les mariages dans le village vont bien, la famille va bien, c'est le village qui va bien. Si les villages sont bien, c'est la commune qui est bien. Si les communes sont bien, ce sont les villes, c'est la ville qui est bien. Si les villes sont bien, c'est le pays qui est bien. Si les pays sont bien, ce sont les continents qui sont bien. Vous comprenez? Si les continents sont bien, la terre est bien. Donc, c'est pour ça que le mariage est indispensable. Pour ce renouvellement à Lyon, je vais faire l'enseignement sur le mariage pour commencer quelque chose de bien. Et je sais que mon Dieu vous bénit en abondance. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez richement bénis. Passez une bonne soirée. Alléluia. Et puis, à demain matin à 4h30. Bye bye.